Bonjour, bienvenue à Aime l'été en ce vendredi 4 août, dernière journée de la semaine. Certains complètent leurs vacances, d'autres les commencent. Notre première semaine du mois d'août qui s'envole, mais les récoltes se feront plus abondantes dans les semaines à venir. On se fait gourmand, on apprécie nos produits et saveurs locales, on cuisine et on profite de l'abondance dans les marchés. C'est d'ailleurs la semaine des marchés publics en ce moment. Et parlant de saveurs et de produits locaux, les chefs nous concoctent des livres et des recettes. Cela dit, de plus en plus, on découvre les activités de cueillette et celles des champignons fait de plus en plus d'adeptes. Aussi, la saison estivale, c'est un beau moment pour être amoureux. Et pourquoi pas chez les personnes plus âgées? Pour en savoir davantage, voici Aime l'été! Au menu de l'émission jusqu'à la fin septembre, c'est le moment d'aller à la cueillette des champignons sauvages. J'en discute avec Mathieu Sicard, qui a coécrit avec Yves Lamoureux le livre « Connaître, cueillir et cuisiner les champignons sauvages du Québec » et qui en est à sa 4e réédition. On va découvrir ce monde fascinant des champignons, mais il ne faut pas les cueillir à la légère. Aussi, il n'y a pas d'âge pour être amoureux, on va parler d'amour chez les aînés en compagnie de notre chroniqueuse Josée Blondin. Cela dit, dans un instant, je reçois le chef Jean-Sébastien Giguère pour nous parler de son livre « Climat, cuisine plus vin au gré des saisons » paru aux éditions La Presse, un livre coécrit avec le sommelier Hugo Duchesne. Un livre élaboré autour des arrivages saisonniers et des meilleurs produits du terroir. Alors, je vous invite à être des nôtres durant cette prochaine heure à Aime l'été! Eh bien oui, j'accueille effectivement mon premier invité qui nous a préparé tout un livre, en fait, Jean-Sébastien Giguère. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Ah ben très bien, et vous-même?
Oui, ça va très bien, merci.
Jean-Sébastien, bon, la cuisine a toujours fait presque partie de votre ADN, hein? C'était au cœur de votre vie familiale au départ, hein? Vous êtes né d'une mère québécoise, mais d'un père italien. Alors, la cuisine, c'était quelque chose que l'on faisait, mangeait en famille, qu'on préparait et qu'on mangeait en famille.
Oui, tout à fait. Disons que les repas, c'était assez sacré à table.
Oui. Eh oui. Alors, vous êtes propriétaire de plusieurs restaurants. Vous avez été impliqué dans de nombreux projets, de beaux projets. Et présentement, vous êtes à la tête notamment du restaurant Le Coureur des Bois à Belle-Oeil, d'une part. Et puis, il y a le restaurant aussi H3, hein, qui c'est plus récent.
Oui. On a ouvert au centre-ville de Montréal en pleine pandémie, là, fin 2020. Ouais.
Et c'est ça, H3, en fait, la lettre H pour humanité, hospitalité, humilité. Alors vraiment, en fait, vous avez ce que vous rêvez de faire, finalement, comme chef. Vous rêvez d'être le plus autosuffisant possible.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi et quand même tout avec les gens qui m'entourent en cuisine. Parce qu'on aime savoir la provenance des produits, puis bien s'alimenter aussi. Ce n'est pas toujours nécessaire d'être complexe comme cuisine, là, mais surtout d'avoir des bons aliments. Oui,
ouais, effectivement. Et puis, bon, c'est ça, parce que je pense que vous êtes déjà, avec vos restaurants, là, vous êtes apiculteur. Évidemment, vous êtes aussi, vous avez une cabane à sucre, hein, également.
Oui. C'est moi qui chapeaute, je m'en occupe, mais c'est sûr que j'ai du monde qui m'aide, là, parce que si je ferais juste
vous
ça,
feriez
ça,
que ça.
Toutes mes... oui, mais on a comme 6 ruches qu'on s'occupe. C'est sûr que c'est pas facile, les abeilles, là, ces temps-ci. Là, cette année, on a une belle saison, mais il y a beaucoup de mortalité l'hiver. Mais j'arrive à tout faire pour les deux restaurants. Et puis, le sirop d'érable, on est à 5000 en taille. Fait que c'est pas considéré comme une grosse cabane à sucre, là. Mais ça me fait à peu près 1500 gallons de sirop par année.
Bon, donc, c'est quand même quelque chose, hein? Alors, c'est ça. Puis, évidemment, là, actuellement, on sait que c'est une saison un peu particulière, hein? Les maraîchers qui en arrachent, effectivement, avec le climat, avec la météo. Alors, ce ne sera pas facile. Et puis, bon, justement, je pense que c'est quand même votre préoccupation première, justement, de constituer aussi des réserves comme chef, de travailler le plus possible avec les produits locaux. Mais vous avez quand même travaillé fort pour faire des réserves en même temps pour avoir des produits frais toute l'année. Il y a toutes sortes de méthodes maintenant qu'on peut utiliser.
Oui. Ben, tu sais, mon côté italien, quand j'étais jeune, on le sait, les Italiens font les tomates, là, toujours au mois de septembre.
C'est ça, ouais.
À peu près en même temps que les vendanges qu'on fait du vin. Ouais, exact. Mais là, moi, j'ai commencé cet été avec l'équipe. Exemple, même j'ai commencé au mois de mai avec les asperges blanches, les asperges, les grosses vertes. Là, tu sais, on fait des récoltes. Là, c'est évidemment, c'est des champignons ces temps-ci. Là. Fait qu'on fait soit des tapenades où on les met dans l'huile en conserve, on les stérilise. Et puis tous les petits fruits aussi. J'achète des cultivateurs proches de chez moi, des palettes de fruits. Puis on met un pourcentage de sucre selon le taux de sucre qu'on ressent dans le fruit. Puis on fait des purées pour l'année. Comme ça, pour faire nos pâtisseries et tout ça. Ou les confitures pour les déjeuners, parce que moi, mes restaurants sont ouverts tout le temps, là, 7 sur 7, déjeuner, dîner, souper. Puis, mettons, avec la pulpe, quand on passe, je développe mes vinaigres. Comme ça, on est capable de travailler avec nos vinaigres toute l'année aussi.
C'est ça, parce que dans votre livre, d'ailleurs, ben, c'est ça, vous en parlez. Il y a une section, justement, qui parle des sauces, qui parle, entre autres, je pense, des vinaigres. C'est
oui.
Ça, donc, vraiment. Et donc, vous avez développé toutes sortes de techniques, bien sûr. Et puis, bien sûr, pour emprisonner, finalement, la saveur des aliments, la saveur de l'été. Hein, c'est quand même tout un art.
Oui, parce que, ben là, écoute, moi j'aime beaucoup l'hiver, mais l'hiver, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de produits là au Québec là à cause du froid. Mais bon, c'est peut-être dû à changer, hein. Justement, on en parle beaucoup partout, le climat, le titre, il est bien choisi finalement.
Ben c'est tout à fait, c'est tout à fait, vous y avez pensé, hein.
Oui, mais c'est parce que je voulais comme un mot qui résume le livre, mais c'était pas évident vu qu'on parle quand même à 50% du vin. Et le climat est quand même très important pour les vignes, le vin, le raisin, tout ça.
Mais ça aussi, c'est un énorme défi. Puis d'ailleurs, bon, c'est ça, ben, je sais que vous avez toute une section consacrée au vin. En fait, vous l'avez coécrit, donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, avec Hugo Duchesne, qui vraiment est un sommelier très reconnu, qui a gagné des prix, là.
Oui, c'est une sommité là, dans le vin. Là. C'est un peu le dieu du vin, là, je l'appelle. Là. Non, mais il est très bon, il est calé, puis c'est cool. Puis on a eu le projet ensemble de faire ce livre-là. Puis notre idée numéro un était de rendre ça pour le commun des mortels, surtout le milieu du vin le plus facile possible. Parce que je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Mais au Québec, maintenant, on boit mieux. Et même les vins d'ici, ils se sont beaucoup améliorés. On a visité beaucoup, beaucoup, beaucoup de vignobles que nous, on fait affaire. Passer du temps à comprendre comment ils travaillent, pourquoi, comment le climat impacte. Puis, mais c'est important d'encourager ceux d'ici. Puis, on a de très bons vins aujourd'hui. Là.
Absolument. Donc, alors, il est là pour nous faire découvrir à la fois les vins, mais bon, la façon de fonctionner, c'est-à-dire que vous avez, préparé ce livre, ça vous a pris combien de temps, premièrement?
Ben, au début, l'idée était partie en peut-être début COVID, parce que, tu sais, quand tu as trois restaurants, puis là, tu tombes que tu n'as plus rien, je m'ennuyais. Fait que je me suis dit, on va faire un livre. Mais là, faire un livre, trouver une maison d'édition, c'est un petit peu plus complexe que je pensais. Ça m'a pris du temps. Et puis, j'ai rencontré Jean-François des éditions La Presse. Puis lui, il a trouvé le projet trippant. Il m'a dit, un livre, Jean-Sébastien, au Québec, sur 4 saisons, ça s'est pas vu. T'sais, souvent, les gens, ils sont très spécifiques dans ce qu'ils choisissent, soit la forêt, la pâtisserie, les grillades, le hamburger. T'sais. Fait que moi, je dis, on va y aller complet. Je me suis dit, on va faire 100 recettes, mais là, finalement, j'ai dit, tabarnouche, ça rentrera jamais. Là, sans, ouais. J'en ai fait, c'est ça, fait que j'ai diminué, je me suis dit, on va faire comme 13-14 recettes par saison. Puis déjà là, j'ai explosé le budget du nombre de pages. Ça m'a pris à peu près 1000 heures de travail, tu sais, 100% concentré sur le livre, parce que j'ai tout testé moi-même les recettes.
Oui, puis il y avait votre mère aussi, je pense, qui testait derrière.
Oui, mais je voulais les tester, tu sais, parce qu'au Coureur des Bois, j'en donne plus. Moi, avant, on donnait des cours de cuisine, puis on a un atelier en haut, puis c'est un four conventionnel comme à la maison, tu sais, un convection, une plaque induction, tu sais, de base, là. Puis j'ai tout testé 2-3 fois les recettes, les temps de cuisson, les temps de repos, les assaisonnements, vraiment pour que ce soit vraiment que les gens soient un chef quand ils reçoivent. Tu sais, on s'entend que c'est pas un livre que je pense que tu vas cuisiner le mardi soir en mois de septembre, tu rentres du travail, tu as les enfants, on s'entend que non.
C'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment...
C'est pour recevoir en grand.
Oui, exactement, pour recevoir. Et puis aussi, ben, vous donner des trucs en même temps pour... Ben, c'est-à-dire qu'il faut, c'est ça, comme vous dites, préparer les choses à l'avance, se faire des réserves, et puis quand c'est le temps, enfin, selon les saisons. Alors, c'est tout un processus, finalement.
Mais il y a plusieurs, oui, mais on n'est pas non plus obligé de faire la recette de A à Z en entier, parce qu'il y a plusieurs sous-recettes qui peuvent être utiles pour d'autres choses, tu sais.
Et juste les photos, là, écoutez, c'est magnifique. Ben, évidemment, bon, écoutez, j'avais le nom du photographe, là, mais je veux dire...
Matt Ayotte, oui, c'est
exactement. Oui, ouais. Monsieur Ayotte qui, finalement, vraiment fait des photos magnifiques. En fait, c'est ça, je l'avais noté, mais bon, c'est ça, c'est plus rapide si vous...
C'est un peu mon cobaye, lui, des recettes, parce que finalement, tu sais, il prenait la photo on the spot, puis... parce qu'il m'a suivi tout le long du livre, puis il goûtait à tout, là, tu sais. Fait que j'ai dit, goûte à tout, puis dis-moi tes commentaires. Puis c'est un photographe professionnel de sa vie, il gagne sa vie comme ça, là, tu sais, 50 heures semaine à juste faire de la photo. Mais il est 0 connaissance en cuisine, là. Fait que c'est comme le cobaye parfait, là.
Ah oui, ce qu'il a fait, c'est vraiment magnifique. Alors, ça donne l'eau à la bouche, bien sûr. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça, s'approvisionner localement, ça a été votre défi depuis toujours. Bon, de toute façon, vous avez votre succès, finalement, c'est une suite de belles rencontres, hein, dès le départ. Vous avez travaillé, comme on le dit, comme je le disais, dans les plus grands restaurants, et on pense, bien sûr, au Toki. Vous avez été de tous ces beaux projets là qui ont émergé durant les dernières années, en fait. Et je pense que, bon, votre toute première expérience, je pense que c'était du côté bon, de Laval avec notamment Danny Saint-Pierre, Martin Junot derrière les fagots. Oui. Hein, c'est ça.
Exact.
Donc, vous êtes vraiment toute une bande d'étoiles de la cuisine et puis c'est ça, vous faites des choses extraordinaires. Eh bien, c'est ça. Donc, ça vous a pris un certain temps, bien sûr, à concocter ces recettes. Alors, ça s'adresse à qui précisément? C'est-à-dire qu'effectivement, on a dit, c'est surtout pour des gens qui veulent recevoir parce que, bon, l'idée, c'est que vous amenez la recette et Hugo va vraiment s'inspirer des ingrédients et va faire une démarche vraiment très approfondie là, par rapport aux saveurs, aux odeurs. Enfin, il va aller chercher des vins, il va proposer dans le livre trois vins avec un ordre croissant de prix.
Oui, exact. Ça s'adresse, je dirais, écoutez, je pense que ça s'adresse aux gens qui sont comme qui savent quand même légèrement cuisiner. Là. Je veux dire, si quelqu'un n'a jamais pris un couteau dans ses mains puis il commence le livre, ça risque d'être un échec. Là, tu sais, dans ça, faut quand même avoir une base en cuisine. Mais ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. C'était l'objectif. C'est sûr que là, avec l'économie qu'on vit puis tout, je me suis dit. Moi, j'ai fait le livre il y a 3 ans. Au début, tu sais, commencé. Là, je vois la réalité d'aujourd'hui. T'sais, je pense pas que tout le monde va manger du homard et des chanterelles un samedi soir. Mais, tu sais, un livre, c'est un peu intemporel.
Exact,
que,
c'est ça.
C'est une photo, ça arrête le temps. Et dans 5 ans, il va encore être d'actualité, ce livre-là. Parce que moi, c'est un peu mon parcours des 20. J'ai commencé à 15, j'ai 37. Donc, ça fait 22 ans que je cuisine. Puis, tu sais, il y a des choses dans ça que je faisais il y a 10 ans. Donc, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, mais qui sont un petit peu, je dirais, entre guillemets, foodies.
Exactement, oui.
Oui, et qui, tu n'es pas obligé d'aimer le vin nécessairement ou vice-versa. Quelqu'un qui n'aime pas nécessairement faire à manger, mais qui veut apprendre sur le vin, je pense que c'est excellent pour comprendre comment qu'un sommelier réfléchit avec les papilles et tout pour faire des pairings de vin. Parce que nous, c'est une grosse partie de notre travail dans les restaurants. Là. On met beaucoup de l'avant. À Bel Oeil, on a... top 100 au monde, puis au Astro aussi, on a une
oui,
très belle
carte. Oui, tout à fait, ouais. C'est ça, vous vous démarquez vraiment.
Oui, on met beaucoup de l'avant, et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, vraiment. Dans
tout
les
à
20
fait.
Dernières années, là, ça a augmenté. Donc monsieur, tout le monde, mais avec une bonne base.
Alors, des recettes vraiment, bon, de superbes recettes. Évidemment, il y a des pâtes, c'est sûr. Hein? Bon, avec vos origines italiennes, ça va de soi. Mais c'est ça. Donc, comme vous dites, on n'est pas obligé de tout cuisiner, hein, mais ça nous donne de belles idées. Et puis, évidemment, vous avez touché à tout, poisson, viande, légumes, des plats
oui,
aussi.
J'essayais d'être assez varié,
ouais.
Exact.
Assez varié. Le côté accord, mais vin, c'est un des points forts du livre, bien sûr, avec Hugo Duchesne, et puis qui fait partie maintenant du groupe Hugen et Beaufort, en passant, oui. Et
oui,
donc, très reconnu encore là. Et puis, bon, il nous propose des types de cépages, non pas juste des vins précis, là, mais donc, c'est ça. Alors, Belle, enfin, vraiment un livre fort intéressant à découvrir. Et puis, c'est ça. Donc, effectivement, on a... Vous dites un livre de cuisine, c'est de l'hospitalité, c'est de la gourmandise, du plaisir. Et c'est ça, ça va bien avec le vin, forcément. Et puis, c'est ça. Donc, le livre s'intitule « Climat ». Alors, c'est ça, « Climat, cuisine plus vin au gré des saisons ». Jean-Sébastien Giguère, Hugo Duchesne aux éditions La Presse. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous. Merci
ça a été un plaisir.
Bonne journée.
Au revoir. Merci.
Merci.
Un peu de magie, dans nos vies mosseuses, s'enlever l'envie de quitter la parade. C'est quand même bien plus fort d'essayer de fucker la donne.
Bonjour des amis. Bonheur de vous voir.
Philippe Braque, un peu de magie.
Et comme à tous les vendredis, on accueille José Blondin, psychologue au service des aînés, qui va nous parler aujourd'hui d'amour. Bonjour José.
Bonjour Chantal.
Bon, c'est une bonne idée ça de parler d'amour en plein été, il me semble que c'est la saison pour ça.
Exactement, tout à fait.
Et oui, et pourquoi pas chez les aînés, hein? C'est ça, faut pas oublier personne, on peut être amoureux à tout âge.
Il n'y a pas d'âge pour aimer et être aimé aussi. Et ça peut varier finalement, hein, soit être en couple, soit développer des relations d'amitié aussi.
Mais oui, c'est ça. Ben, ne pas négliger non plus l'amitié, très important. C'est aussi l'amitié, c'est aussi de l'amour là quand même. C'est pas obligé que ce soit... Enfin là, on ne parle pas juste l'amour, on peut en parler au sens large, bien entendu. Mais là, on va en parler quand même aussi dans une dynamique de couple. Bon, on sait qu'aujourd'hui aussi, c'est pas nécessairement un homme et une femme, bien entendu. Surtout qu'il y a des défis ouais, pour les personnes d'un certain âge hein, qui ont peut-être justement une orientation différente. Et puis, je sais que bon, ça, des fois, ça crée des difficultés aussi quand les gens vont dans des hébergements, des RPA ou enfin des résidences pour personnes âgées. Il y en a pour qui ça pose problème, enfin. Mais on va en parler de toute façon au sens plus large. Alors, oui, c'est ça. Parlons-en de l'amour chez les aînés. Effectivement, comment on fait pour quand on est en couple aussi depuis fort longtemps?
Exactement. Donc, on va l'aborder sous deux angles. Hein. C'est se redécouvrir dans le couple.
C'est ça.
Et si on n'est pas en couple, mais comment on fait pour s'ouvrir à l'amour aussi? Et comme tu as mentionné, Chantal, dans toute cette diversité-là aussi. Donc, au niveau du couple, se redécouvrir dans le couple, ça se peut hein, qu'en vieillissant, plusieurs personnes au fil des années vont se perdre de vue aussi. Donc, j'avais même un client en passant qui ne savait même plus quoi discuter avec sa conjointe parce qu'il se parlait très rarement. Donc, comment on fait pour se redécouvrir?
Oui, oui. C'est tout un défi, ça. À la fois, bon, est-ce qu'on se parle plus parce qu'on se connaît trop? Est-ce que, bon, c'est ça, ou bien finalement, on n'a pas su, renouveler nos... En fait, se renouveler ou redéfinir nos intérêts. Et puis, je ne sais pas, hein, c'est où on...
C'est exactement. Ça, on... Il y a ça, Chantal. Il y a aussi le fait que on a peut-être cumulé, disons-le comme ça, là, on a peut-être cumulé des petites crottes qu'on a encore sur le cœur, qui s'est accumulées au fil du temps, finalement. Puis, on peut m'emmener, ben, on se parle moins, finalement. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'un couple, c'est le miroir l'un de l'autre. Et les conflits, voyez-les pas négativement, ça peut être une source de croissance et de découverte de soi aussi. Parce que c'est notre miroir, finalement.
C'est vrai.
Donc, tu sais, au lieu de soulever nos insatisfactions puis picosser l'autre, tu sais, pourquoi qu'on mentionnerait pas notre besoin? Donc, par exemple, au lieu de dire à l'autre, ouais, tu m'écoutes jamais, mais au lieu de dire ça, mais ça pourrait être, j'ai besoin de ton attention, j'ai quelque chose à te dire.
Oui, c'est ça.
Oui,
on s'affirme.
On a du temps ensemble, partir de soi au lieu de tu fais ça, tu es comme ça, le tu à la longue. T'sais.
Ah, c'est bien dit ça, tout à fait. Mais oui, c'est ça. Donc, au lieu que ce soit accusateur, finalement, mais c'est un peu toujours la même démarche, hein, finalement, partir de soi et se faire confiance. Finalement, pas toujours non plus être dans l'attente que l'autre soit à notre écoute, mais bien solliciter, c'est-à-dire faire une démarche aussi soi-même envers l'autre.
Exact. Puis tu sais, ce qui me tape sur les nerfs, mais prends un pas de recul, c'est quoi qui me tape sur les nerfs en dedans de moi, là, tu sais? Donc, c'est peut-être aussi un qualificatif de moi, dans le fond, qui me tape sur les nerfs, ou un besoin qui n'est pas répondu. Donc, comment, dans le fond, je peux plus l'exprimer, ce besoin-là?
Oui. Et puis, une autre affaire, juste avant de continuer, parce que je ne veux pas perdre mon idée, mais il y a quelque chose, mais il n'y a pas d'âge non plus pour avoir ce genre de comportement. C'est pas juste quand on vieillit. Mais c'est vrai que des fois, on a nous-mêmes certaines insatisfactions, et c'est en fait notre propre inaction qui pose problème. Puis dans ce temps-là, c'est comme si c'était à l'autre de répondre à ce besoin insatisfait, alors que dans le fond, c'est à nous d'y voir personnellement. Tu sais, c'est pas, et c'est là que des fois, on transpose notre frustration sur l'autre, alors que dans le fond, c'est nous qui n'agissons pas.
Exactement, c'est là. Et c'est pour ça qu'on parlait hein, dans les autres émissions d'être capable de soulever et de mentionner nos besoins aussi, là, tu sais, donc à différents niveaux. Donc, c'est exactement ça. Et tu sais, vous savez, là, Chantal, mettons, quand on pogne les nerfs parce que le pot de confiture traîne sur le comptoir, par exemple, mais c'est pas à cause que le pot de confiture traîne sur le comptoir. C'est qu'il y a des frustrations, il y a des choses qu'on n'a pas soulevées. Donc, prenons un pas de recul, c'est quoi qui vient me chercher, c'est quoi que j'ai pas osé dire au lieu d'être dans l'attente finalement. Hein?
C'est ça, parce que c'est se fâcher pour le petit pot de confiture là, qui traîne, ben, c'est un symptôme de d'autres choses souvent, effectivement, parce que si tout va bien, si on s'apprête à aller prendre l'avion, là, je pense qu'on va pas se soucier trop du pot de confiture qui traîne.
Ça, c'est un autre point, Chantal, aussi. Ça peut partir de nos besoins. Ça peut être dans les stress qu'on vit aussi. Donc, si je vis un stress, mais souvent, je vais le projeter. Donc, ça va être un élément, peu importe, je vais être à fleur de peau Et ça se peut que là, je réponde plus raide à l'autre, finalement. Mm-hmm. Mais c'est pas l'autre, c'est le stress, c'est des choses que moi, je vis, finalement.
Exact, c'est ça, le stress, la charge mentale, hein, des fois aussi, ouais, qu'on
exact.
A.
Exact. Mm.
C'est vrai, on parle beaucoup de ça, de la charge mentale, mais c'est très important. Puis dans le couple, là, souvent, hein, il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là, ouais.
Oui, puis il faut l'entendre pour avoir cette place-là aussi. Puis, tu sais, si on saute les plombs des fois, si le stress, il sort, bien, en fait, ce qui est vraiment positif là-dedans, c'est qu'on peut dire que je suis dans une relation qui m'apporte une certaine sécurité. Parce que si j'avais pas cette sécurité-là, j'oserais pas péter les plombs, par exemple, ou de il y a une façon de faire les choses, évidemment, mais c'est justement parce que je sens que je peux être dans un élément de sécurité que j'ose un peu, mais là, il faut que je dose un peu aussi pour être capable de ramener ça puis de dire, attends, là, c'est quoi que je vis aussi? Là, c'est pas juste le faire porter à l'autre. T'sais.
Et pourtant, quand on vieillit, José, on en principe, on gagne en sagesse, on devrait avoir réglé tous ces problèmes-là.
Ben oui, normalement, mais tu sais, c'est... Il y a des fois qu'on peut être dépassé aussi. Là, c'est d'où l'importance. Je pense qu'en vieillissant, on devient peut-être moins... En fait, il faudrait être moins réactif pour pouvoir prendre un pas de recul. C'est là que la sagesse s'installe et qu'on peut faire cette introspection-là. T'sais.
Exactement. Puis là, bien évidemment, on ne tombera pas là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a aussi les problèmes. Bon, la maladie, il peut avoir des petits troubles cognitifs aussi qui s'installent là, quand on parle de gens beaucoup plus âgés encore. Là, tu sais, bon, ça dépend toujours à quel âge, là, à quel âge on a, mais je veux dire, c'est vrai que ça aussi, ça peut entrer en ligne de compte. Les gens sont pas les mêmes tout à fait, vieillissent différemment quand il y a des petits troubles cognitifs qui s'installent. En fait, c'est
évidemment. Donc là... c'est peut-être notre entourage aussi qui va nous faire prendre des prises de conscience sur ces changements-là qu'on peut avoir. Et je pense qu'il faut avoir l'ouverture, la bienveillance de faire « Ah, OK, attends un petit peu, là, tu sais. » Et peut-être même de pouvoir aller consulter aussi, là. Donc, c'est sûr que les maladies dégénératives, mais on peut retarder le processus aussi si on est proactif.
Ouais. Mais en fait, vous nous en avez parlé effectivement de ces problèmes. Et puis, mais ça, vous en voyez, j'imagine, aussi dans votre pratique, là, des gens qui sont pas toujours au même diapason, mais peut-être à cause de certains petits problèmes comme ça cognitifs. Mais quand même, tu sais, des fois, ça peut être léger, mais je pense qu'il faut juste être conscient que, en vieillissant, on peut changer. Puis nos goûts changent aussi. On n'est plus à la même place. Alors, non, franchement. On va discuter, évidemment, d'exercices après la pause. Là, vous avez des trucs à nous donner. Puis aussi, quand on est célibataire puis qu'on veut rencontrer, enfin, il y a plein de choses à discuter encore. Alors, on s'arrête le temps d'une pause, José.
Parfait.
On revient tantôt. OK, à tout de suite.
Aime l'été.
Et de retour avec José Blondin, psychologue au service des aînés, et on parle de se redécouvrir dans le couple ou encore s'ouvrir à l'amour. Bon, rebonjour José. Et bien, pour justement se redécouvrir dans le couple, qu'est-ce qu'on peut faire?
Un exercice que je mentionne en conférence, Chantal, c'est mettez de l'avant des special dates. C'est quoi des special dates? C'est chacun fait participer l'autre dans une passion qu'il a. Okay. L'autre, la seule condition à cet exercice, c'est de participer avec enthousiasme. Par exemple, un des deux, sa passion est la pêche, mais il pourrait amener à une activité de pêche son conjoint, sa conjointe, et là, l'autre personne doit participer avec enthousiasme à cette activité-là. Et là, peut-être que vous n'aimerez pas l'activité, mais vous aurez découvert une passion chez l'autre, ou peut-être même que vous allez vouloir refaire l'expérience et ça va devenir une activité de couple.
Eh oui, ça peut être ça, effectivement. Même quand on n'aime pas passionnément une activité, il reste que ça peut être intéressant quand même de partager ça avec l'autre.
Mais exact. Au moins, ça nous permet aussi de voir, attends, on se partage des passions qu'on a communes aussi.
Mais oui.
Et les special dates, c'est comme organiser un conseil d'administration dans une entreprise. on va lui donner aussi des temps dans l'année. Donc, ça peut être une fois, deux fois, trois fois. À vous de l'établir, mais on va se fixer des temps, puis on alterne aussi. Donc, il y en a un qui présente sa passion, l'autre participe, et inversement par la suite.
Un autre truc,
c'est reconnectez-vous avec l'autre. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi les qualités que vous reconnaissez chez l'autre? Qu'est-ce que vous pensez qui intéresse l'autre?
Okay.
C'est quoi ses objectifs de vie? Et là, ça peut être le fun par la suite d'échanger vos réponses dans l'accueil, l'ouverture et la bienveillance.
Oui, parce que là, on peut être dans le champ aussi. Hein? Ça pourrait arriver, même si on est longtemps ensemble, on pourrait peut-être avoir oublié ou enfin pas remarqué que l'autre s'intéressait à telle chose. Et puis, bon, je ne sais pas, c'est vrai, hein, on peut être dans le champ.
Ben oui, puis tu as tout à fait raison en passant, Chantal, parce qu'il y a peut-être des choses qui m'intéressaient par le passé puis que j'ai complètement oublié et que l'autre peut me le rappeler. Ou inversement aussi, hein,
ouais.
Les besoins peuvent changer, nos intérêts donc vont changer
mais
en
oui.
vieillissant aussi. Et là, ça peut être un beau moment puis dire, hey, OK, attends, soit encore une fois, c'est une activité que je pourrais dire, ah, ben j'ai le goût de le refaire vivre, ou, hey, sais-tu, on va le faire ensemble.
Ben oui, parce que souvent, dans un couple, on entend ça souvent, hein, ben je pensais que t'aimais ça, puis c'est drôle, me semble, t'aimais ça, puis là, finalement, l'autre dit, ben non. Des fois, il y a de la confusion comme ça.
Fait que là, ça peut être le fun pour se reconnecter justement, là, tu sais, surtout si on s'est un petit peu perdu de vue.
Ouais.
Un autre truc, je veux dire, soyez imaginatifs, là. Et ça, même en vieillissant, là, on l'a vu, la créativité, elle est là, vous pouvez la mettre de l'avant aussi. Donc, vous pouvez créer des soirées thèmes. Exemple, une soirée country avec, pourquoi pas, un petit pas de danse après le repas, là, tu sais.
Ben, tiens, oui.
Mon client que je vous disais tantôt qui ne discutait plus, il ne savait plus quel sujet parler avec sa conjointe, là. Et il me dit à un moment donné, parce que là, on essayait de voir comment il pouvait renouer avec sa conjointe. Et lui, c'était super romantique ce qu'il avait décidé de faire. Il avait organisé un pique-nique sur sa terrasse avec un pot maçon dans lequel il avait mis des petits mots, le mot sur des thèmes.
Okay.
Donc, et là, pendant le souper, il pigeait des petits mots. Et là, ça leur permettait d'échanger sur ces thèmes-là. Donc, par exemple, un thème voyage pourrait être de discuter de sa destination de rêve.
Ben tiens, alors ça peut être ça peut être une belle façon des fois de se trouver, c'est ça, des sujets à discuter. Et puis, c'est comme un jeu finalement, ouais.
Exact, et que soyez imaginatifs, amenez ça du côté justement du jeu, Chantal. Et si vous avez le goût de pousser, ben tu sais, un coup, on a par exemple discuté de notre destination de rêve. Est-ce que ça peut être une destination de rêve qu'on aurait le goût de faire ensemble? Et pourquoi pas amener à sa concrétisation? Parce qu'un rêve en vieillissant, on veut pouvoir réaliser nos rêves.
T'sais? Ben, on l'espère, oui.
Voilà. Et un autre truc que je dirais, soyez coquin. Ben oui.
Ah, d'accord.
Même en vieillissant, vous avez le droit d'avoir et de vouloir des moments d'intimité. Ne serait-ce que d'avoir un câlin ou un petit baiser dans le cou, qui n'aime pas ça finalement? Hein?
C'est vrai, c'est vrai. Puis des fois, il y a des gens vieillissants, on dirait que, je sais pas, ils ont un petit malaise avec ça, je sais pas, ils trouvent ça ringard un peu, là, tu sais, ces manifestations sentimentales, j'entends, là. Peut-être pas l'intimité comme telle, mais du moins, c'est ça, des petites choses qu'on peut faire finalement pour témoigner de l'intérêt qu'on a pour quelqu'un.
Exactement. Et ça met la table aussi. Tu sais, si on est en train de cuisiner ensemble, on passe derrière l'autre, on lui fait un petit câlin, on lui donne un petit bisou dans le cou, mais ça peut préparer pour une soirée vers des moments d'intimité. Il ne faut pas banaliser ça, là, parce que la sexualité, elle fait partie de l'être humain. Et on l'associe moins en vieillissant, mais elle est présente, là. Et soyez sexy l'un pour l'autre aussi pour ranimer la flamme. Hein? Tu sais, Chantal, des bas blancs là, dans des sandales avec des shirts remontés en haut de la scène, c'est pas sexy. Là,
mais non, c'est sûr. Il faut quand même se soigner, oui, c'est ça. Il faut soigner quand même minimalement son apparence, assurément.
Mais oui, puis tu sais, et en prenant soin de soi, on l'a vu, nos besoins physiques, en prenant soin de soi, ça remonte mon estime de moi. Si je remonte mon estime de moi, je vais être plus ouverte aussi avec l'autre, puis être plus à l'aise dans ces moments d'intimité-là. Hein?
Bon, ben c'est ça. Ben alors, évidemment, donc des petits trucs comme ça, c'est ça. Il faut juste être créatif, finalement. Vous nous donnez quelques trucs, mais on peut en inventer plein d'autres comme ça. Alors,
ben
c'est
oui,
ça.
Ben exact. Oui, exact. J'inviterais même les auditeurs, hein, s'ils ont des petits trucs là, pour nouer dans leur couple, là, de vous en faire part. Là,
Absolument, c'est ça. Ben oui, pourquoi pas, c'est ça. Bonne idée, finalement, de partager tout ça. Et puis, bon, évidemment, c'est sûr qu'en vieillissant, d'abord, on sait que il y a quand même une disproportion d'hommes, de femmes. Bon, alors c'est sûr que c'est pas tout le monde qui... on vit des deuils en vieillissant. On sait, on a des séparations, des deuils. Alors, bien sûr, souvent, on retrouve des femmes qui vieillissent seules, bien sûr, ben, des hommes aussi. Mais quand on est célibataire, justement, en vieillissant, pas facile hein, de rencontrer quelqu'un.
Non, et la mode, elle a évolué aussi. Là, c'est plus pour rencontrer, là, c'est plus comme c'était avant. Mais, tu sais, Chantal, il n'est jamais trop tard pour rencontrer. Et saviez-vous, Chantal, qu'il existe des sites de rencontres pour les 50 ans et plus?
Ah, ben c'est ça. Il y en a pour tout le monde.
Voilà. Alors, pourquoi pas? J'ai le goût de vous dire, oser rencontrer. Et, tu sais, si c'est pas l'amour, ben ça peut peut-être se transformer en une belle amitié avec qui vous avez le goût de partager des activités, des moments de complicité aussi, là.
C'est ça, parce que je pense que souvent, bon, on voit ça souvent chez les personnes âgées, bon, qui ont eu un partenaire de vie pendant un certain temps, homme ou femme, mais qui veulent peut-être moins s'engager. On dit, bon, moi, j'ai déjà donné, là. Des fois, ça n'a pas été toujours des expériences aussi heureuses que souhaitées. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on peut très bien aussi aller de l'avant avec de belles amitiés. Ça peut, c'est pas obligé que ce soit un amour passionné, physique et tout, là.
Mais non, exact. Ça peut évoluer, ça, là. Et ça va évoluer. J'ai le goût de dire, toutefois, Chantal, oui, je peux avoir eu un compagnon de vie ou une compagne de vie pendant 20 ans, 30 ans, et ce, mais ne vous fermez pas à l'amour. J'ai le goût de vous dire, avancez dans vos deuils, parce que, tu sais, ce que tu fais face, s'efface malgré la douleur. Ce que tu fuis, te suit et te prive de vivre de belles expériences aussi. La vie, c'est ça,
dit.
Là.
Ouais.
C'est
ouais.
De vous ouvrir à ces expériences-là. Donc, osez faire certains deuils. Et j'ai le goût de dire aussi, en vieillissant, ne vous dévalorisez pas, ne vous découragez pas parce que vous êtes une personne du troisième âge. Hein.
Ouais.
J'ai déjà rencontré un couple qui allait se marier et ils avaient tous les deux, Chantal, plus de 80 ans.
C'est beau, hein? Ben, c'est merveilleux parce que de toute façon, c'est ça, il n'y a pas d'âge et puis on ne sait pas jusqu'à quel âge on peut vivre et puis ça peut être surprenant. Alors, on a de belles années parfois devant nous. Malgré
exactement.
Tout, ouais, c'est ça. Eh oui. Alors, il y a des références. Justement, vous avez une belle référence de livre là-dessus.
Oui, pour ceux qui sont en couple. Et même si on n'est pas en couple, ça amène des réflexions. C'est le livre « Qui sont ces couples heureux » de Yvon Dallaire, psychologue. Et qui est à l'intérieur de ça, c'est justement le partage du pouvoir, comment je m'ouvre à l'autre aussi, la communication. Donc, c'est tous des sujets qui peuvent aussi contribuer à notre reconnexion ou même à vouloir, bon, OK, si je suis célibataire et je me remets en couple, je dis ça comme ça, OK, mais il y a peut-être des choses que je vais faire attention ou que je vais mettre en application.
C'est vrai. Bon, ben, écoutez, toujours intéressant d'avoir quand même ce genre de référence et puis de belles lectures à ce sujet. En conclusion, vous avez toujours une petite citation pour nous.
Mais voilà, Chantal, bien oui, et là j'en ai trouvé une super belle, auteur inconnu, mais écoutez ça, le vrai amour ne se soucie pas des rides et des cheveux gris, car il se nourrit de l'essence intemporelle de deux âmes connectées.
Ah ben voilà, c'est bien dit. Alors ben, José, ça a été un plaisir encore une fois, donc on se retrouve la semaine prochaine, alors on va rester dans l'amour là, on va mijoter là-dessus.
Tout à fait. C'est la période estivale. Profitez-en. Merci, Chantal. On se voit la semaine prochaine.
Parfait. Merci, José. Au revoir. Bonne semaine.
Au revoir, Chantal.
Bye bye. Bye-bye. voilà, donc c'est ça. Mathieu Sicard, on l'accueille, mycologue, photographe, qui nous a donné en fait ce best-seller avec, bien sûr, son partenaire Yves Lamoureux, qui est un chercheur en mycologie, biologiste. Et bien, c'est une réédition, quatrième réédition. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors oui, un véritable best-seller. À chaque réédition, finalement, vous nous offrez quelque chose un petit peu plus... Enfin, il y a quelque chose qui s'ajoute, finalement.
Un petit plus, des petites mises à jour. Puis dans ce cas-là, ça faisait quand même 15 ans qu'on naviguait sur l'ancienne version. Fait que il était dû pour une mise à jour.
D'accord, il était temps.
Il était vendu, donc on s'était dit, on va le mettre à niveau, là.
Oui, c'est ça. Bon, écoutez, vraiment, ben vous-même, vous êtes photographe, mais vous êtes reconnu quand même comme l'un des meilleurs photographes naturalistes du Québec, il faut le dire.
Ah, mais ça, c'est trop gentil.
Bon, alors
on fait ça par passion.
Oui, c'est ça. Donc, la passion, de toute façon, ça prend de la passion pour aller cueillir des champignons, hein, parce que le plaisir, c'est pas juste la récolte, c'est aussi d'aller à la recherche des champignons.
Oui, oui. En tout cas, dans notre cas à nous, là, le plaisir, c'est vraiment de connaître les champignons, d'apprendre à les connaître, puis ensuite d'aller à leur recherche. Puis, quand on sait le champignon auquel on a affaire, quand on le connaît bien, mais là, à ce moment-là, on peut le cuisiner. Là. De là, le titre de notre guide, le connaître, cueillir et cuisiner.
Exactement, oui.
Mais la phase connaître est très importante. Et souvent, c'est le petit bout là, que les gens laissent de côté, puis ils vont sur les réseaux sociaux, puis ils mettent des photos, ils disent « ça se mange-tu? » Et ça, c'est très risqué.
Exactement.
Il faut vraiment apprendre à les connaître, les champignons, avant de les consommer.
C'est une belle activité, mais il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Donc, effectivement, il faut s'entourer d'experts. En fait, idéalement, pour quelqu'un qui est débutant, là, c'est bon, à la fois, ça prend un bon guide comme le vôtre, là. Ça, c'est parfait, on part avec ça en poche, mais bien sûr, c'est bien mieux d'aller dans un club ou enfin un cercle,
oui,
de mycologues.
Exactement, et c'est ce qu'on recommande dans le guide. Là, la première étape, là, après qu'on a acheté le guide et qu'on commence à se familiariser avec les champignons, il y a plein de cercles de mycologues partout au Québec. C'est bon de joindre des gens parce que c'est vraiment sur le terrain qu'on va confirmer les choses qu'on a lues, puis apprendre avec des gens qui sont très expérimentés là, à reconnaître les champignons.
Ouais. En fait, d'abord, les cercles de mycologues, de toute façon, c'est eux qui ont contribué beaucoup à découvrir de nouvelles espèces. Écoutez, dans le monde, là, il y en a plus de 20 000 peut-être, puis ici au Québec, quoi, plus de 3 000 certainement.
Oui, oui, on est présentement à 3000, presque 3400, puis ça bouge toujours, là, je vous dirais, dans 10-20 ans, on va peut-être être proche du 5000, là, parce qu'avec les analyses génétiques puis les recherches qui sont faites, là, ça augmente toujours.
C'est
toutefois,
ça. Oui.
Toutefois, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'espèces, il faut savoir que parmi ces 3000 espèces-là, là, il y en a beaucoup, c'est des polypores, c'est très coriace. Les champignons sont d'intérêt pour quelqu'un qui souhaite éventuellement en consommer. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être une centaine, même voire une cinquantaine là, qui méritent l'intérêt. Et c'est pour ça que nous, dans le guide, ce qu'on a fait dans la dernière version, qui est une mise à jour de l'époque, là, parce que souvent les gens veulent aller au plus court, on a fait deux palmarès, deux top 10.
Oui, ça c'est vraiment intéressant. Ça.
Un top 10 des comestibles, les plus pertinents, peut-être pas les meilleurs au goût, là, mais c'est les plus pertinents, ceux qu'on va retrouver le plus souvent, ceux qui occupent le territoire québécois, des meilleurs comestibles, et un top 10 des champignons à éviter. Donc, quelqu'un qui prend le temps de bien lire cette section-là, puis il y a les références là, à la section plus détaillée dans le guide, là, qui apprend à connaître ces 20 espèces-là, il y a presque 80% du chemin de fait pour pouvoir consommer des champignons au Québec.
Exactement. Bon, de toute façon, je pense que tout à l'heure, j'accueillais un chef, là. Bon, on parlait d'un livre de cuisine, mais je veux dire, je pense que, bon, on y va aussi beaucoup en fonction de ce qu'on consomme généralement dans les... Ben, c'est ça, dans les livres de cuisine, ça nous donne déjà pas mal d'indices, mais ça nous en donne pas mal là, quand on a fait le tour des chanterelles, des bolets, des cèpes, bon, les morilles, tout ça. Je veux dire, bon, on peut avoir...
Là, vous venez de nommer trois des champignons qui sont dans notre top 10.
Bon, ben c'est ça, oui. Exactement. Donc, ben oui, tout à fait.
Et la chanterelle, pour nous, elle occupe le premier rang. Et cet été, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les gens
mais
peuvent
c'est
en
ça. Cette année, c'est une année, finalement, qui risque d'être peut-être une année record. Pensez-vous?
Jusqu'à présent, oui. Est-ce que ça va continuer au mois d'août, en septembre, qui sont normalement les saisons les plus intéressantes en écologie? Bon, là, il faut que la pluie soit au rendez-vous, hein, parce que c'est la pluie qui fait toute la différence, là. Souvent, pour les vacanciers, la pluie, c'est désagréable, mais pour les gens qui aiment les champignons, quand il pleut, on est heureux.
C'est ça, exactement. Donc, la cueillette, la récolte des champignons se fait à peu près, bon, dans la période estivale, bien sûr, mais à partir de la fin juin, là, ben, enfin, dans l'été, là, ben, il peut y en avoir, j'imagine, peut-être un peu avant, mais c'est surtout de juin à fin septembre?
Oui, c'est ça, sauf pour les morilles. Les morilles, c'est au printemps. C'est vraiment à partir de la fin avril jusqu'à la mi-juin, les morilles, dépendant des régions au Québec, là, qui est un champignon qui n'est pas à dédaigner. Il y a aussi le polypore écailleux qui pousse au printemps, là, qui est un comestible intéressant là, quand on n'a pas trouvé de morille. Lui aussi est assez répandu sur le territoire et il est plus commun que la morille.
C'est ça. Bon.
Donc ça, c'est la saison du printemps, mais l'essentiel de la saison, là, c'est été, chanterelle, bolet, et ensuite les lactaires et autres champignons là, au mois d'août et septembre.
Alors, intéressant. Bon, évidemment, là, on a parlé, évidemment, de champignons qui peuvent être toxiques. D'abord, bon an, mal an, c'est sûr qu'il y a toujours, on rapporte toujours des intoxications liées à la consommation de champignons, des gens qui peut-être s'aventurent trop, là, finalement, à ramasser des champignons. Et puis, bon. Mais ça représente, comme on le disait dans tous ces appels concernant des intoxications, celles par les champignons, ben, ça représente peut-être 1% seulement. Donc, c'est pas que c'est énorme, là. C'est-à-dire, il faut juste être prudent, mais quand même. Ça peut être indigeste parfois, mais bon, c'est sûr qu'en autant...
Oui, aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on recommande, nous, quand on consomme un champignon qu'on a bien identifié la première fois, chaque personne peut avoir ses sensibilités, donc toujours en consommer une petite quantité et toujours bien cuit. Là. Des fois, on voit sur les réseaux sociaux, « Ah, moi, je le mange cru. » C'est pas une bonne idée de manger des champignons sauvages crus. Là. Il faut toujours, surtout la première fois, là, il faut le cuire comme il faut et en prendre des petites quantités pour voir on est sensible. Pour ce qui est des risques d'empoisonnement, ça, nous, quand on a débuté en écologie, là, il y avait juste les gens qui étaient originaires d'Europe là, qui s'intéressaient aux champignons ici au Québec. Là. Et c'était très rare les Québécois qui s'intéressaient à ça parce qu'il y avait une hantise. Donc, nous, dans notre processus, puis pour chacune des éditions du guide, on a toujours été très, très prudents parce que la dernière chose qu'on voulait, c'est qu'il arrive des accidents, que ce soit médiatisé et que ça fasse un recul au niveau de l'expansion de la passion pour les champignons sauvages au Québec. Alors, on a toujours été... Sauf que là, le nombre est tellement important, il y a tellement de gens qui s'intéressent à ça.
C'est ça, beaucoup d'adeptes.
Il va y avoir des accidents, malheureusement, mais les gens à qui ça arrive, on peut pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus.
C'est ça. Donc, il faut pratiquement faire exprès, là, à un moment donné. Là. Je pense qu'il faut...
Pas jusqu'à dire ça, parce que des fois, bon, par exemple, bon, je lisais dans l'article de la presse, sur les marchés publics, des fois, on voit des champignons sauvages qui sont vendus, puis on vend ça comme mélange forestier, puis c'est le restant, puis il y a des champignons en plus ou moins de bon état.
Quelqu'un
pourrait s'intoxiquer avec ça.
Ouais.
Mais là, c'est pas... Il a acheté ça dans un marché, donc on peut pas blâmer la personne.
Non, vous avez raison. C'est ça. Donc, effectivement, beaucoup d'adeptes. Alors, un peu comme les oiseaux, ben, il y a ceux qui s'intéressent aux champignons. Il y a toujours eu... Bon, les gens se sont toujours nourris de champignons. Ça remonte à la préhistoire, hein, vous le dites vous-même. Et puis, c'est ça. Donc, chez les Grecs, les Romains, et ça a servi de poison même. On connaissait, oui, c'est ça, ceux qui étaient les plus toxiques. Là. Alors, évidemment, dans l'Antiquité, là, on en connaît comme ça qui ont empoisonné.
Claude l'Empereur aurait été empoisonné par la mère de Néron qui lui aurait servi un plat d'amanite phalloïde, un champignon très dangereux, mortel, qu'on retrouve beaucoup en Europe. Et qui est apparu dans l'Ouest canadien, mais qui n'existe pas encore ici au Québec. Là. Ouais. Elle aurait remplacé les amanites des Césars par l'amanite des phalloïdes et ça l'aurait empoisonné Claude Empereur. C'est une hypothèse.
Voilà.
C'est pas
bon.
Rien de prouvé, mais quand même. Et c'est ce qui a ramené Néron ensuite le trône de César.
C'est ça.
Avec
tout
ce qui s'ensuit.
Ah ouais, c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc, les amanites, effectivement, bon, il faut juste quand même être un peu prudent avec ça. Mais chose certaine, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'un champignon? réellement.
Un champignon?
Oui, est-ce que, ben, c'est parce que vous dites vous-même, bon, ça peut, en fait, ça pourrait, c'est pas un légume, on pense toujours que c'est un légume, mais c'est pas un légume.
C'est vraiment un univers propre, le monde des champignons, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Maintenant, on parle de fonges, comme avant, on disait qu'on avait un herbarium quand on avait des champignons sèches, maintenant, on dit qu'on a un fongarium parce que c'est vraiment fonge, c'est le monde fongique, c'est un monde à part. Il y a les végétaux, il y a les animaux et il y a le monde fongique.
C'est
donc,
ça.
Le champignon, en fait, c'est quelque chose qui profite de l'environnement, soit par association ou soit en parasitant. Et c'est un espèce de réseau de mycélium, de grands fils blancs qui se promènent dans le substrat, soit du bois mort ou du compost ou autre. Et ensuite, ce que nous, on ramasse, c'est le fruit du champignon.
Exact.
C'est,
ouais.
c'est l'organe reproducteur du champignon. C'est comme si on cueillait une pomme, dans le fond, d'un arbre. Là, on cueille le carpophore, le sporophore, qu'on appelle maintenant, le champignon là, qu'on ramasse, du mycélium qui, lui, est dans le sol et qui reste dans le sol et qui, si les conditions sont adéquates, va produire d'autres champignons. Lui, ce champignon-là, il sert principalement à envoyer les spores, les semences de champignons dans l'air. Ils sont comme des petits ballons dirigeables. C'est pour ça qu'on voit que les champignons essayent toujours d'amener ça le plus haut possible,
ouais,
une sorte de stratégie.
Ça.
Parce que plus ils montent haut, ben, plus les spores vont pouvoir se répandre loin et finalement trouver un autre endroit. Parce qu'il y a tout déjà cet endroit-là. L'idée, c'est de trouver un autre endroit où il va pouvoir s'installer et profiter du substrat, puis encore une fois, faire des sporophores, des champignons.
Exact. Il y a des cycles de reproduction, il y a les saisons. Bon, vous avez une première partie qui aborde les trois grands thèmes, là, justement, connaître, cueillir et cuisiner les champignons, parce que vous avez des recettes, ça c'est très important à dire, hein,
super
recettes.
On n'est pas des grands cuisiniers.
Non, mais quand même.
On a quand même voulu partager avec les gens des trucs qu'on avait développés au fil du temps là, pour cuisiner. On s'est inspiré aussi d'autres ouvrages là, pour proposer différentes recettes.
C'est ça.
Et c'est des recettes qui sont faciles à faire aussi.
Exactement.
L'idée ici, là, notre guide, c'est un guide pour découvrir le monde des champignons.
Exactement. Donc, la deuxième partie, c'est les champignons par espèce. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors je résume ça. On peut parler aussi de l'équipement, le matériel pour aller cueillir. En fait, on a tout ça dans votre livre. Il y a plein de choses comme ça que l'on peut découvrir. Donc, c'est ça, évidemment, il y en a une multitude, là, avec des couleurs spectaculaires, bien sûr. Mais bon, alors, où chercher également, hein, parce que c'est ça, dans quel type de forêt, des fois, bien
exactement.
Sûr, on apprend aussi que, par exemple, bon, les érables, c'est pas bon, ça, pour aller chercher des champignons, des forêts d'érables.
En général, non.
C'est les conifères,
général,
surtout.
C'est pas le lieu préféré.
Non, c'est ça.
Les forêts de chêne, de hêtre ou les bois de conifères, là, c'est les endroits les plus intéressants. Les grosses cueillettes de chanterelles qu'on a vues sur les réseaux sociaux, là, c'est parce qu'il y avait des conifères.
C'est ça. Donc, il y a des endroits plus spécifiques. Donc, alors voilà, donc, c'est vraiment 40 années d'expérience donc réunies. Bon, à vous deux, Mathieu Sicard et Yves Lamoureux. Donc, alors, connaître, cueillir et cuisiner les champignons sauvages du Québec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci à vous.
Ça a été un plaisir. Et puis, ben, je remercie Catherine Bourderon pour la recherche de cette émission, Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve lundi à M l'été entre midi et 13h. Ici Chantal Lavoie, au revoir.